Bonjour et bienvenue dans Histoire et gastronomie. On se retrouve deux fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie, influence, histoire vraie, mondialisation et date clé sont les quatre séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouech, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. La gastronomie lyonnaise doit tout aux influences italiennes. Comment ces influences se sont-elles exercées? Par quelle voie? Sous quelle forme? C'est cette histoire des influences italiennes sur la gastronomie lyonnaise que je vous propose de vous raconter dans cet épisode. En 1935, Lyon est consacrée capitale mondiale de la gastronomie par Kurnonski et Marcel-Émile Granchet, qui lui consacre même un ouvrage. Mais ce qui est certain, c'est que cette consécration ne serait jamais intervenue sans les influences italiennes qui se sont exercées sur la ville par de multiples voies pendant plus de quatre siècles. Tenez-vous bien, la liste est longue. Bugne, pâté croûte, cervelas, quenelle, tripes, abats, béati, graton, cardon, artichaut, voilà quelques spécialités bien identifiées dans le patrimoine gastronomique lyonnais qui nous arrivent directement des nombreux marchands et banquiers italiens présents lors des foires de Lyon à la Renaissance. C'est aussi à la Renaissance que le roi François Ier accorde à deux Piémontais le privilège d'implanter à Lyon une nouvelle activité, l'industrie de la soie, qui va nourrir et enrichir la ville pendant quatre siècles. Cette activité qu'on appelle la fabrique va donner naissance aux canuts, les ouvriers laborieux de la soie, et aux soyeux, les marchands négociants de la soie. Elle va donner naissance aux cuisinières bourgeoises, puis aux mères lyonnaises au XIXe siècle et donc à la cuisine populaire des bouchons, aux mâchons et enfin à la cuisine gastronomique de tradition lyonnaise. Enfin, nous devons encore aux artisans italiens l'introduction de l'art du chocolat et de celui de la glace au XVIIIe siècle. Cette immense influence italienne prend brutalement fin le 25 juin 1894. Cette histoire commence à la Renaissance italienne, qui s'étend approximativement de 1400 à 1600, soit pendant deux siècles. Cette période marque une transition entre le Moyen-Âge et l'époque dite moderne et induit de grands changements culturels en Europe. Ce vent nouveau venu d'Italie apporte les arts, les sciences, les découvertes et de toutes nouvelles façons de manger. Dès le milieu du XVe siècle, c'est à la cour des Médicis, à Florence, que l'on voit apparaître un certain raffinement de la table. L'assiette en faïence remplace la traditionnelle écuelle. Le verre remplace le gobelet en étain. Et la fourchette à deux dents permet à chacun des convives de manger plus lentement et surtout plus proprement. Pour la première fois de l'histoire, on prend son repas dans une salle à manger. Au même moment, à la cour pontificale de Rome, on respecte scrupuleusement les nombreux jours maigres imposés par l'Église, entre 150 et 200 jours par an, pendant lesquels la consommation de viande est interdite. La mode des fruits et légumes est alors en plein essor à la table du pape et des cardinaux. Comment ces changements arrivent-ils depuis Florence et Rome à Lyon? La gastronomie lyonnaise prend racine au milieu du XVe siècle, quand, en 1463, Louis XI donne le privilège à la ville de Lyon de tenir quatre foires franches de 15 jours, suivies par quatre foires aux monnaies et aux paiements d'une même durée. Ces foires attirent dans la ville plusieurs milliers de marchands venus des provinces voisines, mais aussi de toute l'Europe et surtout d'Italie. Elles font de Lyon la deuxième ville du royaume, le principal centre du commerce et du négoce des épices européens et une véritable place forte bancaire. À compter de cette période, la ville connaît une vague d'immigration italienne sans précédent qui peut s'expliquer par trois événements majeurs. Tout d'abord, la situation politique en Italie, ensuite le succès des foires et enfin la position stratégique de Lyon comme ville frontière. À la fin du Moyen-Âge, la situation politique en Italie est critique. Les antagonismes politiques au sein des villes italiennes, Venise, Florence, Rome, Milan, Naples, qui fluctuent selon les alliances et les pouvoirs en place, ainsi que les conflits et les complots, ont pour principale conséquence de pousser nombre de familles à quitter leur terre natale pour assurer leur sécurité. Lyon, carrefour naturel avec l'Italie et grand centre de commerce européen par ses foires, devient la principale destination de l'immigration italienne. Il ne faut pas oublier qu'à la Renaissance, la séparation entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique dont fait partie le duché de Savoie suit approximativement le Rhône et la Saône. Lyon est donc à la frontière entre ces deux entités. La grande vague d'installation des Italiens à Lyon s'opère avec le succès des foires entre 1460 et 1510. Des marchands installent des membres de leur famille ou des représentants permanents pour les représenter, sur place, pendant et même hors des périodes de foire. Les marchands, négociants et épiciers italiens sont suivis par l'arrivée de banquiers, florentins, milanais et lucquois, qui installent des succursales dans la ville et supplantent les banquiers lyonnais. Ces banquiers étendent leur pouvoir, de façon tentaculaire, en prêtant l'argent nécessaire à la monarchie française pour mener ses expéditions maritimes et surtout ses guerres d'Italie. Aucune campagne militaire ne peut être menée sans l'argent des banquiers italiens qui en profitent pour négocier à leur avantage des privilèges, exemption de taxes ou d'impôts, lors des foires avec les rois de France. Enfin, en 1494, lorsque Charles VIII décide de se lancer dans les guerres d'Italie, pour établir sa souveraineté sur le royaume de Naples et le duché de Milan, il doit forcément passer par le Piémont, et donc par le duché de Savoie qui s'étend jusqu'aux portes de Lyon. Ces guerres d'Italie sont une suite de conflits militaires menés par les souverains français en Italie pour faire valoir ce qu'ils estimaient être leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan. Expliquons-nous. Jusqu'en 1442, le royaume de Naples était aux mains de la maison d'Anjou, maison cadette des Capétiens. À cette date, le roi Alphonse V d'Aragon, soucieux des intérêts de la couronne d'Aragon en Italie, en prend le contrôle. Il évince la maison d'Anjou, représentée par le roi René du royaume de Naples. La maison d'Anjou essaie alors sans relâche de reprendre possession. Son dernier représentant, René d'Anjou, meurt en 1480. Ses droits sur le royaume de Naples passent alors au royaume de France, où règne Louis XI, puis à partir de 1483, Charles VIII. En 1486, certains barons du royaume de Naples, restés fidèles à la maison d'Anjou, se révoltent. Vaincus, ils se réfugient en France. Les monarques français essaient alors de faire valoir leurs droits sur ces territoires pendant 65 ans. Charles VIII, Louis XII, François Ier puis Henri II, au cours des 11 campagnes militaires menées en Italie, entre 1494 et 1559, vont utiliser Lyon comme base arrière. Ils trouvent dans cette ville frontière tout le ravitaillement et le financement qu'exigent les guerres, et à cet effet, ils stationnent dans la ville avec leur cour et leur armée plusieurs mois durant. Alors, résumons-nous. À la Renaissance, la ville connaît une vague d'immigration italienne en raison de la situation politique en Italie, du succès des foires et de la position stratégique de Lyon comme ville frontière. Cette arrivée massive d'Italiens à Lyon va permettre l'introduction dans la ville de nombreuses spécialités culinaires. La Renaissance voit aussi l'arrivée de Catherine de Médicis en 1533 pour son mariage avec le second fils de François Ier, le futur roi Henri II. Issue d'une riche et puissante famille toscane, la future reine, alors âgée de 14 ans, est habituée à l'opulence et au raffinement. Elle aurait amené avec elle non seulement des recettes personnelles de cuisine et de nouveaux produits, mais aussi maints cuisiniers, pâtissiers et confiseurs florentins qui auraient enseigné l'art du raffinement de la table à leur homologue de la cour de France. Toutefois, s'il y eut de nombreux artisans et artistes italiens présents à la cour de France pendant la Renaissance, qui contribuèrent à introduire à la fois des produits alimentaires et des habitudes de table, aucun écrit de chroniqueur, aucun témoignage ne vient corroborer cette influence supposée de Catherine de Médicis sur la gastronomie française. Plus qu'une légende, c'est un véritable mythe gastronomique qui s'est construit a posteriori sur la pseudo-révolution gastronomique apportée par Catherine de Médicis à la cour de France. Cependant, bien que ce mythe soit remis en cause depuis les années 1970, les historiens ne remettent pas en cause l'influence que l'Italie et les Italiens ont eue sur l'art culinaire et la gastronomie française depuis le début des guerres d'Italie. On le reconnaît, l'introduction de nouveaux fruits et légumes et surtout de l'art de la confiserie qu'ils maîtrisent à la perfection. Les souverains français et la cour ont découvert avec émerveillement le faste des cours princières italiennes et pontificales lors des guerres d'Italie. Impressionnés par ce renouveau intellectuel et artistique, ils mettent tout en œuvre pour importer dans leur royaume la culture, le mode de vie raffiné des transalpins et leur gastronomie. Celle-ci va non seulement s'installer à la cour, mais aussi arriver rapidement à Lyon, qui est alors la deuxième ville du royaume. En effet, les souverains français sont reçus officiellement à Lyon à 12 reprises, entre 1476 et 1600. Ce n'ajoute à ces visites officielles, leurs nombreux séjours dans la ville avec la cour et leur armée pour mener les guerres d'Italie, le succès international des foires et la position stratégique de la ville, celle-ci s'est totalement transformée. Elle est devenue un véritable carrefour économique, financier et diplomatique, et un centre militaire d'envergure où se côtoient diplomates, banquiers, marchands, poètes, aristocrates et rois. Comme nous l'avons vu, la présence italienne à Lyon pendant cette période de la Renaissance est indéniable. Ce rôle est majeur dans le succès des foires, dans le dynamisme et le rayonnement de la ville, ainsi que dans l'introduction de nombreuses spécialités gastronomiques en son sein. Cardon, artichaut, tripe, abats, Beati, Graton, Pâté-croûte, Bugne, Cervelas, Quenelle, la liste est longue. C'est ce que nous allons voir maintenant. Commençons par l'arrivée des cardons et des artichauts. Si les Romains consommaient déjà le cardon à l'Antiquité, il est un peu oublié au Moyen-Âge avant de revenir sur les tables à la Renaissance avec la mode des légumes venus d'Italie. Le cardon est servi probablement pour la première fois à Lyon lors d'un dîner officiel donné le 25 février 1548 par les autorités municipales aux ambassadeurs suisses à l'occasion de la naissance de la princesse Claude, deuxième fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Le gratin de cardon à la moelle est depuis resté l'un des plats préférés des Lyonnais pendant les fêtes de fin d'année. Quant à l'artichaut, une forme améliorée du cardon, il est créé au XVe siècle par des horticulteurs italiens. Catherine de Médicis en raffole. Ainsi, Pierre de l'Étoile rapporte dans son ouvrage intitulé « Journal, le règne d'Henri III » une anecdote amusante concernant la gourmandise de Catherine de Médicis à l'occasion du repas de mariage de Mademoiselle d'Artigues qui se tient le dimanche 12 juin 1575. Je le cite. La reine-mère mangea tant qu'elle cuida crevée et fut malade au double de son dévoiement. On disait que c'était d'avoir trop mangé de cul d'artichaut et de crête et rognon de coq, dont elle était fort friande. L'artichaut à l'italienne ou friolet est servi dans les banquets et repas officiels du XVIIe au XIXe siècle à Lyon, avant que la mère Filloux, la mère de la gastronomie lyonnaise, n'inscrive le cul d'artichaut au foie gras à sa carte à la fin du XIXe siècle et en fasse l'une des spécialités de la gastronomie lyonnaise. Cette spécialité est reprise par son élève, la mère Brasier, la plus célèbre des mères lyonnaises, auréolée de 2 fois 3 étoiles en 1933 pour ses 2 restaurants. Puis en 2008, c'est Mathieu Vianney, l'actuel chef doublement étoilé, installé dans le restaurant originel de la mère Brasier, qui perpétue les artichauts au foie gras, revisités à sa façon. Mais revenons quelques instants à l'anecdote citée par Pierre de l'Étoile, les crêtes et rognons de coq évoqués par celui-ci, constitués avec les gésiers, barbillons et autres bouts des ailes de volatiles, ce qu'on appelle les béatilles. On les a vus apparaître comme garniture dans le premier service du dîner offert par le consulat de Lyon au Grand Condé en 1660. En fait, lors de ce dîner, il est servi au premier service un grand potage de 8 poulets farcis de béatilles. Le ragoût de béatilles est resté l'une des spécialités de la cuisine populaire des bouchons lyonnais, encore servi récemment par Gilles Maisonnave dans son bouchon comptoir Brunet de la rue Claudia. Le pâté en croûte, voilà une autre spécialité lyonnaise. À l'occasion du fameux dîner donné aux ambassadeurs suisses en 1548, sont aussi servis des pâtés chauds de grenouille, d'escargots, de bevezon, de saumon, etc. Ses origines remontent à l'ère romaine, où il était déjà apprécié par l'empereur Néron. Apicius, dans ce De re coquinaria, l'art culinaire, publié au 1er siècle de notre ère, donne plusieurs recettes de patina, qui ne sont rien d'autre que des recettes de pâté en croûte de tétine de truie, de poulet, bec figue ou grive, cuit dans un moule en bronze. À Lyon, le pâté en croûte se dit pâté croûte, et nul n'a à ce jour trouvé les origines de cette appellation spécifique. Déjà très en vogue au XVIe et XVIIe siècle, le pâté croûte est plus que jamais d'actualité à Lyon, qui fait même l'objet d'un championnat du monde annuel depuis 2009, concours qui a totalement réhabilité le pâté croûte artisanal, face à son homologue industriel qui envahissait les étals. Enfin, sachez, qu'on le baptise pâté croûte ou pâté en croûte, dans le reste de la France, ces appellations sont de toute façon un pléonasme, car dans tous les livres de cuisine de l'histoire des temps, le pâté est toujours cuit dans une croûte. Sinon, c'est une terrine. On voit apparaître ces appellations en croûte au tournant des années 1970. Lyon est reconnu pour ses plats de cochonaille et de tripes, faits de bas morceaux, peu chers. Mais connaissez-vous la trilogie de la tripaille lyonnaise? Gras double, andouillette à la fraise de veau et tablier de sapeur sont les 3 mamelles de la tripaille lyonnaise. On sait que les Grecs et les Romains consommaient déjà les tripes, tout comme les Gaulois. Il semblerait qu'elles aient été un peu oubliées au Moyen-Âge pour revenir en force à la Renaissance. Marie-Joseph Moncorgé, dans son ouvrage intitulé « Lyon, 1555, capitale de la culture gourmande au XVIe siècle », nous raconte que le nombre de tripiers à Lyon était multiplié par 3, entre 1500 et 1550. Elle interprète cette évolution par le fait que les abats sont revenus à la mode avec l'arrivée des marchands italiens, encore eux, pendant les foires de la Renaissance, amenant dans leur bagage culturel cette tradition romaine de la consommation des tripes et leurs plats dérivés, les andouilles et le gras double. Les Italiens ont aussi laissé dans la ville bien d'autres spécialités emblématiques, comme la bugne, le cervelas et la quenelle. Nous allons y revenir dans un instant. La bugne est bien le seul dessert historique de Lyon. Et la tarte à la praline, alors? Les Lyonnais ne jurent que par elle. La tarte à la praline n'a rien d'historique. Elle est devenue une spécialité lyonnaise uniquement depuis les années 1990, grâce à Alain Chapelle. Mais ceci est une autre histoire que je veux conter un autre jour. La bugne, quant à elle, est une véritable spécialité lyonnaise historique. Elle est attestée depuis 1286 au monastère de l'île Barbe, soit depuis plus de 7 siècles. Elle est devenue rapidement la pâtisserie emblématique de la collation de l'après-midi pendant le carême, à une période où elle n'était encore constituée que de farine et d'eau. La bugne, sous sa forme actuelle, confectionnée avec du lait, du beurre et de la farine, s'est déployée dans la ville à compter de la fin du XVIIIe siècle sous l'impulsion des vitriers friteurs. Encore des immigrés italiens issus du Tessin, un territoire à cheval entre Suisse et Italie, installé dans le quartier de la Guillotière. La bugne originelle, faite d'eau et de farine et façonnée sous la forme d'un petit anneau, a disparu à l'aube de la Révolution, à la suite des assouplissements des règles du carême par l'Église. Il suffisait alors de verser une aumône aux œuvres de l'Église pour être autorisé à enrichir les bugnes de carême, de beurre ou d'œuf, sans risquer le jugement de Dieu. Aujourd'hui, cette bugne moderne, qu'elle soit gonflée ou plate, reste la pâtisserie emblématique de la ville en février et mars, même si on la trouve presque toute l'année au Hall de Lyon pour le plus grand plaisir des touristes. Vous connaissez le saucisson à cuire. Lyon en possède une variante de luxe, fabriquée avec les meilleurs morceaux du porc et enrichie de pistaches et ou de truffes. C'est le cervelas. Selon certains, le cervelas lyonnais tire ce nom du fait que l'on ajoutait dans le passé de la cervelle dans sa préparation. Selon Colette Sibilla, l'emblématique charcutière lyonnaise, le cervelas n'a jamais contenu le moindre morceau de cervelle. Qu'en est-il vraiment? Eh bien, selon le trésor de la langue française informatisée, le cervelas lyonnais, écrit « cervelas » avec un T dans le carlivre de Rabelais en 1552, est emprunté à l'italien « cervelato », lui-même adapté de l'ancien milanais « zervelada », qui qualifiait une charcuterie faite de sang, de viande et de cervelle. La voilà la cervelle. Et tenez-vous bien, « zervelada » est lui-même dérivé du latin « cerebellum » qui désigne, je vous le donne en mille, le cerveau. Donc s'il n'y a jamais eu de cervelle dans le cervelas lyonnais, ce nom fait bien référence à cette ancienne charcuterie milanaise faite avec de la cervelle. La réputation du cervelas de Lyon est très ancienne, car dès 1826, le guide du voyageur et de l'amateur à Lyon précise que les cervelas et les jambons ont dans tous les temps joué d'une grande réputation. On en faisait des envois à Rome sous les règnes des Césars. Pour clore le sujet sur le cervelas, Krunowski, l'homme qui a consacré Lyon capitale mondiale de la gastronomie en 1935, nous rapporte une ancienne tradition lyonnaise qui se perpétue encore au début du XXe siècle dans certaines familles, au petit déjeuner du jour de l'an. Et uniquement ce jour-là, il est d'usage de démarrer l'année en mangeant du cervelas pistaché accompagné de café au lait. Vous devriez essayer. Enfin, une petite dernière pour la route. Voici l'histoire de la quenelle lyonnaise, encore une spécialité venue d'Italie. Mais attention, retenez deux choses. Tout d'abord, à Lyon, on l'appelle quenelle et non quenelle. C'est comme ça. Et ensuite, cette quenelle, elle est exclusivement fabriquée avec de la panade, de la chair de brochet et de la graisse de rognon de veau. La quenelle lyonnaise est donc une quenelle de brochet. On la retrouve déjà dans un ouvrage du 1er siècle de notre ère, le De re coquinaria d'Apicius, qui est le plus célèbre des gastronomes romains. Il s'agit en fait d'une sorte de boulette de chair de poisson, crustacée ou viande, pilée, assaisonnée, additionnée d'œufs et parfois de mie de pain, moulée et cuite. La boulette romaine est passée par l'Allemagne, a pris une forme ovale pour devenir quenelle, dont le nom est inspiré de l'allemand knödel ou knöffle. Pendant ce temps-là, on préparait toujours à Lyon cette boulette romaine originelle sous le nom de godivo. Le godivo est poché avant de venir enrichir tourtes et pâtés ou garnir vol au vent et ragoût. On confectionne la panade en faisant bouillir du lait ou du bouillon avec de la mie de pain. On filtre l'ensemble et on dessèche la mie de pain sur le feu pour qu'elle absorbe tout le liquide. On prépare ainsi, au XVIIe et XVIIIe siècle, et certainement bien avant, des godivots de toutes sortes de veaux, de blancs de volaille, aux truffes, de gibier, aux champignons, de carpes, de brochets, de turbots, d'anguilles de mer. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on ne rencontre pas la moindre évocation de la quenelle dans les livres de cuisine. Au début du XIXe siècle, quand le godivot, en forme de boulette, prit une forme ovale, on lui donna le nom de quenelle, venu d'Allemagne. Mais la quenelle se faisait encore de la même façon que le godivot et ne différait que par sa forme. C'est ainsi qu'on trouve même dans les livres de cuisine des quenelles de godivot, c'est-à-dire des godivots façonnés en forme de quenelle et non plus de boulette. Là où ça se corse, si j'ose dire, c'est qu'en 1894, Joseph Favre mentionne dans son dictionnaire de cuisine à la fois le godiveau à la lyonnaise et la quenelle de poisson à la lyonnaise, deux préparations réalisées avec de la chair de brochet, qui justifie alors l'appellation à la lyonnaise. Que s'est-il donc passé en ce début du XIXe siècle pour que cette appellation dite à la lyonnaise apparaisse aussi clairement aux yeux de tous les érudits de la cuisine? Vers 1830, alors que la ville connaît la prospérité grâce à l'âge d'or de l'industrie de la soie, elle doit faire face à deux calamités qui viennent entacher ce succès. La pyrale qui ravage les vignobles du Mâconnais ou du Beaujolais et les brochets qui pullulent dans la Saône, menaçant son équilibre. On se décide alors à pratiquer la surpêche pour faire face à cette surpopulation. Mais se pose alors la question de l'utilisation de la chair de tous ces brochets dont on ne sait que faire. C'est Félix Benoît qui avance l'hypothèse dans la cuisine des Traboules en 1983 que ce serait le maître pâtissier lyonnais Charles Morateur qui aurait eu l'idée d'incorporer cette chair de brochet dans de la pâte à choux, utilisée comme panade, donnant ainsi naissance à la quenelle lyonnaise. C'est une hypothèse que nous réfutons, car aucun écrit ne vient attester cette affirmation. Plus encore, Benoît Poirier, un neveu et successeur de Charles Morateur, publie en 1931 un ouvrage intitulé « Le bréviaire de la cuisine », dans lequel il donne en bonne place la recette des quenelles de brochet du restaurant Morateur, sans jamais s'en attribuer la paternité. Vous pensez bien que si son oncle en avait été l'inventeur, il n'aurait pas manqué d'en faire état. Si donc l'histoire de la création de la quenelle lyonnaise au brochet, qui fait la gloire de la cuisine bourgeoise du XIXe siècle, relève encore de la légende, bien qu'elle soit fortement inspirée de la boulette romaine, comme nous l'avons vu. Sa popularité est déjà acquise au début du XXe siècle, sous l'égide du charcutier Joseph Moine, dont les quenelles sont inscrites à la carte du restaurant de la mère Filloux, puis de la mère Brasier. Aujourd'hui, nul touriste en goguette à Lyon n'oserait quitter la ville sans avoir dégusté une quenelle lyonnaise sauce nantois, c'est-à-dire avec une sauce aux écrevisses. Cardon, artichaut, tripe, abat, pâté croûte, bugne, cervelas, quenelle, l'Italie était un grand pourvoyeur de spécialités pour la gastronomie lyonnaise. Cela fait déjà beaucoup pour une seule nation. Mais au XVIe siècle, alors que les foires déclinent, naît une nouvelle activité, l'industrie de la soie, qui va faire rayonner la ville pendant 4 siècles et donner naissance aux mères lyonnaises, aux bouchons et aux mâchons qui font la réputation gastronomique de la ville au XXe siècle. Lyon doit encore cet apport majeur aux Italiens. L'histoire commence ainsi. En 1536, François Ier donne à deux Piémontais le privilège de la fabrication des étoffes d'or, d'argent et de soie, qui installe la fabrication de la soie à Lyon. Ainsi est née la fabrique, avec ses soyeux et ses canuts, qui connaissent son apogée au XIXe siècle. À la Révolution, 40% de la population lyonnaise, soit 60 000 personnes, travaillent pour l'industrie de la soie. Soyeux et bourgeois gravitant autour de cette industrie génèrent de belles fortunes, ce qui leur permet d'employer à leur domicile des employés de maison, dont des cuisinières bourgeoises. Mais après les révoltes des canuts des années 1830-1840, l'externalisation de la fabrication de la soie hors des murs de la cité et la crise financière américaine de 1929, l'industrie de la soie s'arrête brutalement. Les bourgeois et notables de toute la région n'ont plus les moyens d'entretenir leur domesticité et doivent licencier leur personnel. Leurs cuisinières sont les premières à faire les frais de ce marasme, car elles sont les mieux payées des domestiques. Se retrouvant sans emploi, elles se reconvertissent naturellement dans ce qu'elles savent faire de mieux, la restauration, donnant ainsi naissance aux mères lyonnaises. Les unes embrassent la haute gastronomie à destination de leurs anciens maîtres devenus leurs clients et acquièrent la notoriété. Les Mergui, Filloux, Brasier, Lia, Castin donnent naissance à la cuisine gastronomique lyonnaise. Paul Bocuse, formé chez la mère Brasier, perpétue cette cuisine gastronomique lyonnaise dans la seconde moitié du XXe siècle. Les autres pratiquent une cuisine traditionnelle populaire à l'image des canuts faites de cochonailles pendant que leur mari se releva au comptoir. Les mères Coqui, Léon, Barbet, Tacard donnent naissance à la cuisine des bouchons. C'est dans ces bouchons que les ouvriers de la soie, les canuts, prirent l'habitude de casser la croûte à la mi-journée, vers 9h du matin, donnant naissance au mâchon lyonnais. Ce petit déjeuner est constitué d'un plat, d'un fromage et d'un pot de Beaujolais. Bouchons et mâchons sont plus que jamais d'actualité dans la ville. Chaque matin, des centaines de mâchonneurs se retrouvent dans quelques dizaines de bouchons pour célébrer cette tradition de bon vivant. La ville de Lyon peut remercier les Italiens pour tout ce qu'ils lui ont donné comme spécialité gourmande et pour avoir donné naissance aux mères, aux bouchons et aux mâchons. Mais l'immense générosité italienne s'est encore illustrée au XVIIIe siècle avec l'introduction de la glace et du chocolat dans la ville. Au XVIIIe siècle, ce sont encore les Italiens qui ont introduit à Lyon l'art de la glace et celui du chocolat. Si Catherine de Médicis s'est vue servir un sorbet Tutti Frutti lors de son mariage en 1533 à Marseille, ce n'est qu'en 1762 qu'Antonio Sprifico, un immigré napolitain, ouvre la première boutique de limonadier glacé à l'enseigne du Jardin de Flore, place des Terreaux, à Lyon. En 1780, il s'installe aussi dans la vaste plaine des Brotteaux, aménagée en zone de promenade et, grâce à ses 25 enfants, donne naissance à plusieurs générations de glaciers. Au XIXe siècle, les glaciers italiens se multiplient dans la ville. Rattachés aux pâtissiers, regroupant aussi les confiseurs et chocolatiers, on sert la glace chez tous ces artisans italiens. Elle est encore vendue par des glaciers ambulants qui sillonnent la ville sur la place Bellecour et au parc de la Tête d'Or. Cet âge d'or des glaciers va être contrarié par la concurrence des glaces industrielles. Un seul glacier artisanal de cette grande époque a survécu jusqu'à nos jours. Il s'agit de la maison Nardone, installée dans la ville depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et le chocolat, alors, comment est-il arrivé à Lyon ? L'Italie découvre le chocolat en 1606 grâce à Francesco Carletti, grand voyageur et marchand italien. L'introduction du chocolat à Lyon est due à Pietro Casati, maître verrier italien, installé à la Guillotière. Sa renommée démarre quand il se met à fabriquer, en 1743, le thermomètre centigrade à mercure, dit thermomètre de Lyon, à la demande de son inventeur, le physicien Jean-Pierre Cristin. 30 ans plus tard, vers 1774, et pour diversifier ses activités, Pietro Casati décide de proposer à sa clientèle du chocolat à boire, alors très à la mode en France. Avec ses descendants, ils ouvrent plusieurs établissements, dont celui de la rue Impériale, devenue rue de la République, connue sous le nom de Maison Casati, et réputée pour ses crèmes, cafés, chocolats et glaces, mais surtout pour la qualité de sa restauration. Avec son cadre luxueux et son service stylé, il devient l'un des meilleurs restaurants de la ville, jusqu'à la fin du XIXe siècle. La famille Casati est imitée par d'autres Italiens, les Toni, Poulet, Bianchini, Bianchi et Maderni, qui s'installent comme chocolatiers, glaciers et restaurateurs. En 1868, les chocolatiers italiens vivent un véritable âge d'or. Ils sont 33 chocolatiers installés dans la ville. Malheureusement, cette belle influence italienne sur la gastronomie lyonnaise va se terminer tragiquement. Cette saga du chocolat italien prend brusquement fin le 24 juin 1894 avec l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, rue de la République à Lyon, alors qu'il était venu dans la ville à l'occasion de l'exposition internationale. Quand on apprend que l'auteur du crime est un anarchiste italien, du nom de Sante Geronimo Caserio, la foule se déchaîne contre tous les établissements tenus par des Italiens. Les vitrines des restaurants Casati sont brisées, les locaux dévastés et incendiés. La famille Casati est contrainte de fermer définitivement ses restaurants. Les deux restaurants Maderni subissent le même sort. Ils vont laisser le champ libre à l'émergence de nouveaux chocolatiers lyonnais, dont la très renommée Maison Voisin, qui s'installe dès 1897, et la chocolaterie Révillon en 1898, devenue aujourd'hui le principal fournisseur de la grande distribution papillote, avec 400 millions de papillotes vendues chaque année avant Noël. Ce déchaînement de violence à l'encontre de la population italienne de Lyon provoque un vent de haine à l'encontre de toute la communauté italienne qui est incriminée et prise pour cible. Ce crime annonce le clap de fin de l'influence italienne sur la gastronomie lyonnaise, une influence qui s'est exercée pendant au moins 4 siècles. Pour clore ce podcast, je répète ce que je vous avais dit en introduction. Lyon doit l'essentiel de sa gastronomie à l'Italie, et sans les Italiens, Lyon n'aurait jamais été consacrée capitale mondiale de la gastronomie en 1935 par Kurnonski. Un grand merci à l'Italie pour sa générosité. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et Avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.